Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec notre trio de motards luttants. Christophe Tillemont pour le sommaire du Moto Magazine du mois de mai, Jean-Yves Ballois de la Fédération Française des Motards en Colère et l'info de la Custom Culture avec Daniel Torel. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonjour la Miche.
Tous ensemble, hein, tous ensemble. Oui. Voilà. Alors Christophe, on commence avec toi pour ce sommaire du Moto Magazine. Il va y avoir du son et du bruit, ou du bruit ou du son dans cette émission.
Tout à fait. Vous vous souvenez que le mois dernier, j'avais parlé des attaques contre les circuits. On avait parlé du circuit d'Albi, circuit de Lausanne.
Bon. Nogaro.
Malheureusement, Nogaro, effectivement. Et donc là, un gros dossier, donc c'est une revue de presse. Alors, je vais vous décliner un petit peu les séquences que je vais vous présenter. Un dossier sur le bruit. Alors, le bruit, tout à l'heure, hors antenne, on parlait de son, de bruit. Alors, ça tombe bien. Il y a un article aussi sur le son au cinéma des motos. Donc, on fera un petit test tout à l'heure pour voir si vous êtes bon sur ce sujet-là. Hein. Et puis, 40 choses à savoir sur le bruit. Donc, Jean-Yves m'aidera parce que, avec ses compétences techniques et physique, il nous éclairera sur la différence.
C'est un physicien, Jean-Yves. En plus d'être membre de la Fédération Française des Motards en Colère, il est physicien.
Voilà.
Mais à la retraite. Hein.
Oui, heureusement.
Il se laisse aller pour le physique. Hein.
Et donc, il y a une tronche de physicien, d'Albert Einstein.
Un docteur Raoult.
Un sujet amplement d'actu, hein, on l'a dit. Et puis, je voudrais passer un coup de gueule, là, parce que j'étais à la manif le 10 avril dernier, et je tournais dans les rangs des motos, et puis il y en a plusieurs hein, qui rinçaient les poignets et qui faisaient monter les décibels jusqu'au rupteur. Bon, donc je rappelle que la FFMC a son slogan: pour être respecté, soyons respectables. J'avais pas l'impression que ces gens-là s'en souvenaient beaucoup.
Non seulement ils se respectent pas eux, mais ils respectent pas leur moteur, parce que ça fait pas du bien de monter comme ça au rupteur. Hein.
Mais c'est pas grave, on change de moteur, allons.
Justement, je voudrais bien qu'un jour il y en a un qui sert devant moi là. Pour...
souvent, ça arrive qu'il y ait des cons qui s'amusent à faire patiner la roue arrière.
Un burn, exactement.
Et puis le pneu éclate et ils sont comme des cons avec une bécane inutilisable.
Et c'est l'édito d'ailleurs que consacre Pierre Orluc au sujet, hein, qui rappelle aussi un positionnement de la FFMC. Un manque de considération pour autrui de la part d'une petite partie de la population motarde, c'est le monde motard tout entier qui se tire une balle dans le pied.
C'est
vraiment ce que j'ai ressenti samedi dernier. Donc, bon sang, mais je sais pas ce qu'il faut dire.
Bon sang, t'as dit, c'est ça, bon sang.
Bon sang ne saurait mentir.
Deuxième sujet, les motos à laisser. Alors,
il y a la Vespa aussi, les 75 ans de la Vespa.
Ça fait partie. Les motos à laisser, c'est effectivement l'histoire de la Vespa. Alors, je ne vous referai pas l'histoire, mais je vous présenterai le sujet. Les deux, je prends la couverture de Motomag, numéro 376, de mai 2021. Et donc, full techno ou full speed. Donc, le retour de la Hayabusa, qu'est-ce qu'on dit ? 340 km/h, ça vous rappelle quelque chose ?
Bon, c'est pas la vitesse du TGV, ça ? Non, c'est 300
km/h. Non, c'est 500 et les poussières.
Voilà, qui avait quand même fait grand bruit à l'époque où c'était sorti, avec le compteur. D'ailleurs, aujourd'hui, le compteur n'arrive pas à 300, il est limité à 290, mais ce qui n'a pas empêché François de passer, remettre à zéro le compteur, si on veut, sur la piste. Et donc, full techno avec la 1250 RT chez BMW. Alors, je ne vous présenterai pas le modèle, vous le découvrirez dans les pages du journal, mais j'en profiterai pour faire un petit encart technique sur les régulateurs adaptatifs et donc qui vous font freiner. Donc, première sur une moto, sur BMW. Et on aura donc un dirigeant de BMW qui nous expliquera effectivement l'évolution technologique.
C'est pas une évolution, je trouve qu'au contraire c'est une connerie, mais bon.
Pour la moto, la voiture effectivement.
On en discutera tout à l'heure.
On arrive à la voiture autonome. Et puis donc la moto pratique avec une revue de presse avec quelques repères dans le journal pour vous aider donc à reprendre le guidon ici avec l'été. Et puis pour terminer le MotoGP et le sport moto en général, où je vous donnerai quelques recettes parce que vous avez vu depuis le mois dernier, il y a de larges pages qui sont consacrées au sujet.
Très bien, Christophe. Jean-Yves, le point sur le contrôle technique.
Je
le voyais arriver gros comme une maison. Hein.
Oui, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ça a été remis il y a plus tard, mais on n'en est pas libre pour autant. Mais ça, je développerai. Je rappelle l'opération Deadpool et surtout, je vais vous donner un petit éclairage scientifique sur les notions de bruit, de son,
avec
d'émergence,
Christophe.
Avec Christophe.
Comme exposé précédemment. Donc, très bien. Et Daniel Torel, alors Daniel, toujours le ras-le-bol des prix indécents, des custom.
Ben oui.
Tu pars en guerre, là. Hein, parce que je crois que à chaque fois, tous les mois, quand on se rencontre, ouais. À chaque fois, c'est la même chose.
Mais oui, parce qu'on est là en disant, voilà, on va manifester contre le contrôle technique, on va manifester contre ceci, on va faire une revue de presse sur les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, etc., etc. Et on voit une inflation d'euros, mais d'une manière indécente, je ne sais pas. Alors, je fais un...
Alors, on va pas tout de suite rentrer dans le sujet. Hein.
Non, voilà, c'est pas le sujet.
Mais on va parler. Hein.
Mais c'est surréaliste.
Bon, très bien. Et apparemment aussi, toi, t'as un regard un peu particulier sur les manifs anti-contrôle technique.
Non, j'ai pas un regard
un avis, d'ailleurs,
particulier, mais j'aimerais, enfin, dans toute manifestation, et tu sais ce que c'est quand on était syndicaliste, on a du sens dans ce que l'on fait et il y a un véritable objet.
Très bien. Les blousons Leiter Levis.
Ouais, tout à fait.
L'original.
Absolument. On va parler, moi je te rappelle, ensemble, on avait fait un sujet sur le Perfecto.
Oui.
Et là, sur une marque bien plus ancienne que Perfecto, c'est le Leiter Levis anglais. Et je vous expliquerai un petit peu sa légende à travers
Événements. Et pour terminer, l'avis sur les SAV, une prise en garantie de nos motos, le parcours du combattant.
Bah, qui n'a pas eu un souci de garantie, et on a essayé par tout moyen d'expliquer comment faire, est-ce que c'est vraiment sous garantie, etc.
Voilà. Et on termine avec les news de la custom culture.
Ouais, tout à fait, plein de choses sur la musique, sur les balades, et peut-être bientôt une éclaircie sur notre monde.
Voilà, très bien, et on dit bonjour à notre technicien adoré, Laurent.
Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent.
One is two, two and two is four. I have a load of baby, I'm about to go. Hey, crying baby, honey, don't you gonna go back to the land of California, to my sweet home, Chicago. No, two and two is four, four and two is six. You're gonna keep me monkey around, my friend, boy. You're gonna get a business in a tree. I'm crying, baby, honey, don't you gonna go back to the land of California, to my sweet home. Eight and two is ten. Friend, will she trick you one time? She sure gonna do it again. Hey, hey, crying baby, baby, don't you go back to the land of California, to my sweet home, Chicago. Come on, baby, don't you go. Four.
Le sommaire du Moto Magazine du mois de mai avec Christophe Tillemant.
Voilà, alors là, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Un bon son. Un
oui.
bon son.
Hein. Ah bah, c'est bon, de, voilà. bah là, dans le magazine de la moto, donc, tu tiques un coup, t'es tout pas, il y a du bon son, hein,
et,
ça.
Et donc, quand on parlait du bruit, bah, on va d'abord commencer par le bon son. Hein. Donc, je disais que Yamaha, par exemple, tout à l'heure, on en parlait hors antenne, Yamaha, qui fabrique des motos, fait aussi des instruments de musique. Et donc, la nouvelle déclinaison de leur MT-09, le modèle 2021, eh ben, il a été décliné, justement, avec les acousticiens, pour arriver à la bonne note et faire un produit qui soit plaisant à l'oreille, du bon son. Et donc, justement, il y a un sujet, donc, ça va vous surprendre ou pas, sur le cinéma et la moto au cinéma. Alors, je vous invite à un petit jeu, là. Je vais demander à Laurent d'envoyer une moto tirée d'un film. Et puis, bah, vous me direz si vous la reconnaissez.
Ouais, mais qu'est-ce qu'on gagne?
Rien.
c'est pas un jeu, c'est une arnaque.
C'est juste pour animer. Donc, Laurent, vas-y, envoie. Vous reconnaissez?
Oui, ah, avec ça, Tom Cruise.
Oui.
Ça, c'est un 4 cylindres japonais.
Ouais, ça ressemble.
Avec Tom Cruise.
Ah, ouais. Et c'est Mission Impossible.
C'est Mission voilà. Impossible.
Mais lequel?
Oui, lequel?
Ah, ça, j'en sais rien, écoute.
C'est le 5.
Oui, oui, tourne à Paris.
Le 5.
C'est pas la BM.
Non. 4 cylindres.
Et alors? Et alors?
C'est et alors?
C'est et la alors BM 1000
SR.
La S1000R.
R, ouais.
Voilà.
Ah, ça pense.
Ah, oui. Mais alors, on ne l'a pas bien entendu parce que c'est couvert par la musique, ouais. Mais si on écoutait toute la bande-son, il passe 18 fois les vitesses.
Oui,
il y a une boîte voilà. Allemande.
Bon. Non, mais c'est Tom Cruise.
Oui. Deuxième son. Deuxième son.
C'est pareil, il y a un 4 cylindres.
C'est encore un Mission Impossible.
Encore un Mission Impossible.
Oui.
Oui, bah alors écoute, là.
Bon, eh ben non, c'est pas un 4 cylindres. C'est le son d'un 4 cylindres.
Oui.
Mais c'est une Triumph Speed Trip.
Ah oui, ça va pas ça.
Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, et alors, l'article continue ça comme
va pas.
Ça. Donc, l'article continue comme ça. On oui. vous passe un peu tous les modèles qui sont effectivement déclinés. Et on fait parler d'ailleurs un cascadeur, Goy, qui explique que la prise de son à moto, c'est compliqué. Hein, parce que dès qu'il y a de la
oui.
vitesse.
Parce que le sujet, en fait, c'est il y a trois pages hein, dans le Motomag.
Oui.
Et c'est vrai que bah, pour nous, motards et connaisseurs, hein, on est frustrés. Parce que, vrai, quelquefois, on voit un acteur sur une moto.
Exactement.
Et le bruit ne correspond pas du tout, mais du tout à la moto.
C'est le bruit d'une mobilette.
Ouais,
alors. La Miche, tu vas être content parce que justement, il y a deux références que j'ai relevées et puis vous découvrirez le reste de l'article après. Il y a deux références qui sont données où justement, il y a une qualité sonore de la moto en adéquation avec, dans le film avec la moto d'origine. C'est la R1200C BMW et c'est dans un... Dans quel film?
James Bond, non?
Un James Bond.
La R1200C, oui.
Effectivement, Demain ne meurt jamais.
Oui, ah bah voilà. Oui.
La cascade a été effectivement supervisée par Goy, et donc la qualité sonore...
Et le bruit correspondait, le bruit du moteur correspondait bien à la machine.
Et une référence beaucoup plus lointaine, qui est donc une Kawasaki 750H2.
Oui, dans l'agression.
Dans l'agression.
Oui. Alors le premier plan, on voit trois motards. Alors c'est sur l'autoroute, on est dans une voiture, et on voit de la lunette arrière de la voiture, on voit trois motards. Alors elle est phare allumée, et c'est 750 Kawasaki H2 hein.
Oui.
Et ça dure au moins une minute comme ça, on voit les motos qui sont juste derrière et bah, je vous raconte pas la fin du film.
Voilà, le miaulement
vaut mieux, on n'a pas le temps.
Le miaulement des trois flûtes à l'accélération, oui. Et la vibration
et
des blocs
et c'était bien le bruit des 750.
Voilà. Ouais. Et pour terminer donc sur le sujet voilà. Du son au cinéma, alors, Laurent,
oui,
tu
alors,
nous envoies une
référence. C'est dommage qu'il n'y a pas de micro hein, parce que c'est quand même le professionnel du son, Laurent.
Oui. Alors, écoutez. C'est pas une référence de l'article.
Je dirais un western.
La grande vadrouille.
C'est pas la grande vadrouille.
Non. Ça commence comme ça. Ça se finit
la grande évasion, pardon.
La grande évasion.
Avec Steve McQueen sur la Triumph.
Alors là, il y a Maldon aussi. Hein. Alors il y a Maldon sur le bruit, mais il y a aussi Maldon sur la moto. Hein.
Voilà.
Hein. Voilà.
On est d'accord.
Dites-moi comment ça se fait qu'un militaire allemand peut se retrouver sur une Triumph.
Exactement.
Parce qu'ils ont les moyens de te faire parler.
Alors, voilà. Ce son-là, il est hors sujet parce qu'il n'est pas abordé dans l'article, mais vous découvrirez quand même toute le travail des techniciens, justement, pour. En fait, ils répondent aussi à des besoins filmographiques pour une qualité de production. Et donc, ils sont contre-fiches, effectivement.
Oui, j'ai vu, c'est Jean-Pierre Roy qui dit ça, pour les hyper spécialistes, des claquements de porte. Alors, apparemment, l'acajou ne claque pas comme l'ébène.
Oui.
Tu vois, quand tu marches, si tu marches sur une pelouse, ou pas sur une pelouse, sur du gravier, si tu marches, ou sur un plancher, ça ne résonne pas pareil. Alors ça, c'est vraiment hyper spécialiste.
Oui, oui.
Alors, un luthier te le dira. Ouais.
Pour continuer...
C'est toujours une lutte.
On a parlé des bons sons, maintenant parlons du bruit. Alors on a parlé des circuits, on a parlé des routes touristiques. Je lisais sur la route,
B 500 en Allemagne.
17 virages, non mais en France entre Rambouillet et Versailles,
la vallée de Chevreuse,
ils ont mesuré 518 passages en 8h30, c'est-à-dire une moto à la minute, avec des émergences. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Yves, qui exaspère les riverains. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a des procès contre les circuits. On a les maires qui ne savent plus comment gérer l'exaspération de leurs habitants par rapport à ce phénomène. Et donc, on sent bien que par les fédérations, il y a un travail important qui est mené, justement, pour essayer de faire en sorte que tout le monde s'approprie le sujet. C'est pas que l'affaire des utilisateurs. Ouais, on en parlait aussi. C'est l'affaire, on le verra avec Jean-Yves, c'est l'affaire des équipementiers. Des pots adaptables, des normes anti-pollution qui sont dégradées par le changement effectivement de pots. C'est aussi évidemment les constructeurs. Dan, tu nous diras aussi ta vision des choses par rapport au sujet. Et donc, vous avez un tour d'horizon. Alors, c'est un peu long à présenter, donc je ne vais pas vous en faire la présentation complète. Mais ce qui se passe à côté, chez nous, en Autriche, avec une limitation donc de bruit qui interdit aujourd'hui, par exemple Jean-Yves à Taroquette 3, de circuler sur certaines routes autrichiennes. Allemagne, c'est l'interdiction pure et simple le week-end de certaines et les jours fériés de certaines routes. Et en Italie, c'est la limitation de vitesse pour justement faire en sorte que l'émergence de bruit ne vienne pas dégrader l'environnement des riverains ou des personnes qui fréquentent le lieu, donc dans les Dolomites et le Trentin. Sur la route de Mondello.
Après, Christophe aussi, tu sais, j'ai entendu une histoire, il y a des gens de la ville qui ont déménagé à la campagne et puis il y avait un coq. Le coq, ça fait longtemps qu'il est là, à la campagne. Et puis ces gens de la ville, ils ont loué une maison ou acheté une maison. Ils ont déposé une plainte contre le coq. Le coq, c'est normal, le matin, le coq, il chante. Alors... je sais pas, mais il faut accepter aussi les choses.
Oui. Et ce non, serait pas. Exactement.
Non, c'est exactement.
Plus personne n'accepte rien maintenant.
Donc c'est pas de l'intolérance d'une certaine partie de la société, de personnes.
Tout à fait. Mais
que je dirais pas, je vois bien de qui je parle. Hein.
Pour aller dans ton sens, je terminerai la séquence là-dessus, c'est la parole de Vincent Thomeret, président de la branche moto de la CISIAM, qui regroupe en fait, c'est le syndicat international de l'auto et de la moto. Et il explique justement que c'est par, malheureusement, le niveau de menace le plus élevé, c'est le bruit. Pour la moto, la pratique de la moto, elle vient principalement des municipalités. Parce que c'est les politiques qui sont au contact de la population et qui sont à même de contraindre, malheureusement, le plus vite. En ce qui concerne l'État et l'Europe, ça prendra un peu plus de temps, mais ça viendra. Et donc aujourd'hui, la Commission européenne travaille sur l'évolution des normes à 2024. En 2024, c'est demain. Et l'État français, on le voit pour le contrôle technique, sera aussi amené à légiférer à la suite de l'Europe. Donc toutes ces évolutions-là, elles seront... imminente, et donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde s'y attache. Et il y a une autre question qui est posée, et c'est amusant de voir comment ils bottent en touche, par rapport aux motos japonaises qui sont réputées plus silencieuses que les motos européennes, qu'ils contrent, en fait. Bon, il faut reconnaître qu'une moto japonaise, elle a un son plus feutré. on va dire que
certaines... Ça dépend lesquelles.
Alors, ça dépend lesquelles, peut-être, mais en l'occurrence, le journaliste l'amène sur cette question-là, et on voit comment Tom Ray botte en touche.
C'est aussi le gros problème des circuits, hein, les circuits qui existent depuis 70 ans, hein, qui ont été construits il y a 70 ans, et des terrains aux alentours, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de construction, et puis maintenant, des gens s'amusent à aller acheter des terrains parce qu'il est moins cher, sans doute, et puis à proximité du circuit. Oui. Et après, ces gens-là, on les retrouve dans les tribunaux parce qu'ils portent plainte contre le circuit. Mais attends, il ne fallait pas construire la maison à côté du circuit. Les gens, ils savaient bien. C'est comme quand tu construis une maison à côté d'une porcherie. Bah, ça, une porcherie, ça sent mauvais. On ne construit pas sa maison à côté d'une porcherie. C'est trop facile.
Oui. Tu as raison, la miche. Mais on reviendra sur le sujet des circuits parce que justement, sur l'émergence, ce dont on parlait tout à l'heure, ça sera intéressant de voir. Je rappelle qu'en MotoGP, le sonomètre ne doit pas dépasser 130 décibels à 8000 tours. Bon, c'est déjà le bruit d'un avion au décollage. Mais elles ne roulent pas à 8000 tours, les motos. Elles roulent bien plus. Donc ça, c'est pour le MotoGP. Mais sur le roulage libre, sur les circuits, et là, on arrive sur le terrain que tu nous amenais tout à l'heure, on verra avec Jean-Yves, justement, cette question de l'émergence et des problématiques posées par le sport automobile et motocycliste.
I don't know when I'm stuck in Folsom Prison. Time keeps dragging on, but that train keeps rolling on down the sand. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head in. Eating in a fancy dining car, they're probably drinking coffee and smoking big cigars. I know I had it coming, I know I can't be free. But them people keep on moving, and that's what tortures me.
Moto à l'essai, Christophe, dans le Moto Magazine du mois de mai.
Oui, alors moto à l'essai, puis moto présentée au sens large. Hein, donc je vais passer une petite revue de presse donc de tout ce qui est présenté. Alors déjà, on fête les 60 ans de Yamaha en Grand Prix. Et donc c'est en France, que les premières Yamaha ont tourné sur le circuit de Charade, qu'on avait eu l'occasion de voir lors d'une sortie. Et donc, à l'époque, Yamaha s'était aligné avec des motos, une 250 de temps de 35 chevaux. Ça fait rêver. Et une 125 de 20 chevaux.
Bon. Oui, non, mais à l'époque, une 1200 Aigli, elle faisait 45 chevaux.
Voilà. Alors, autre sujet, donc, les Vespa. Les Vespa, 75 ans donc, de Vespa, groupe Piaggio. Alors, un point commun avec Moto Guzzi, c'est que ces concepteurs étaient issus du milieu de l'aviation. Alors, il y a une légende qui disait que les roues de Vespa, c'était des roues d'avion.
Oui.
Bon, non.
Non, c'est pas un nom.
Non, c'est pas. Mais par contre, la fixation
oui.
Latérale.
Ça vient de l'aviation.
Effectivement, vient de l'aviation avec, comme les trains d'atterrissage, donc système de fixation. Alors, apparemment, ce monsieur qui a conçu la Vespa était motophobe. Et donc, il trouvait ça laid, dangereux, sale. Et donc, il a voulu isoler les parties mécaniques et faire en sorte que tous les usagers restent propres. Il a intégré la roue de secours et le changement de vitesse au guidon. Voilà.
Tu as vu en 1956, le ministère français de la Défense commande une Vespa, mais avec un canon.
Ouais. Tout à fait.
Un canon de 75 sans recul. Alors, il faut voir le truc. Hein,
je connaissais.
Avec les munitions juste derrière.
Je suis à côté. Oui, t'as
intérêt à pas avoir de recul là-dessus.
Alors, on y apprend qu'il y a 4 Vespa qui ont été engagés sur le Dakar. Bon, il y en a que 2 qui ont fini. Ouais. Et les 2 autres, ils finissaient toujours hors temps. Hein, donc, ça a dû être un peu compliqué pour eux. Il y a eu un sidecar. Il y a eu des records de vitesse. 1000 km à 124,3 km/h. Un chapeau quand même, on Vespa. Hein. Bon, alors elle peut arranger, profiler. Mais, et puis également le 17,2 chevaux, record du kilomètre lancé sur une autoroute à Rome à 171,1 km/h. Bon, respect.
Et puis aussi, en 1967, dans un film, on voit une Vespa qui vole comme un hélicoptère et c'est aussi se transformer en sous-marin. Ça fait les deux. Ouais.
Et alors, tu parles de films, c'est quand même grâce à Hollywood et à ses acteurs de l'époque que le marché de la Vespa s'est mondialisé. Et donc, 114 pays distribuaient donc, des Vespa. Et puis, des Vespa de voyage, Milan, Tokyo, Tour du Monde, Paris, Saigon, Groenland, enfin, la vie du pays. Hein, oui. Voilà. Et elle est toujours actuelle. Donc, autre sujet, la renaissance, point d'interrogation, de Bioule. Donc un vaste article qui reprend un petit peu l'historique de la marque et l'annonce d'un nouveau modèle qui, bon, à la lecture de Philippe Guillaume, reste vraiment très perplexe parce qu'ils nous ont habitués, en fait. Alors, il prend les paris. Hein. Et est-ce qu'on verra la sortie de ce nouveau modèle sur une base, d'ailleurs, mécanique qui n'est pas nouvelle, hein, puisque c'est un modèle qui a déjà existé en 2014. Alors évidemment, qui est Euro 3 à l'époque et qui probablement va être retravaillé pour sortir aux normes Euro 5. Donc vous reverrez la déclinaison donc, de toute la carrière de Bioule et de ses projets pour le futur. En page 38, une présentation donc, des Triumphs, Triumph Rocket 3. Cher Jean-Yves, oui. Alors là, c'est noir.
Oui, c'est abominable. Ça me fait penser toujours à l'histoire du goudron et des plumes, là, des desesperados qu'on transporte sur un rail à la fin de Lucky Luke.
Et alors, en parallèle, juste en face, l'Indian Chieftain Elite. Donc je me tourne vers mon ami Lan, parce que là, on est en plein dans le marketing.
Je m'excuse, mais elle fait peur, hein, cette alors, Rocket 3 Black GT Triple Black.
Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ?
On est un truc de whisky.
Eh bien, la Triumph, pour la vendre à bon prix, il la sort à 1000 exemplaires, il la numérote et certificat
d'authenticité. Ah, ça, c'est ce qu'on parlait l'autre jour, ça. C'est le.
Exactement.
Le teasing, c'est ça.
Et marketing de frustration.
Voilà. Donc,
de frustration.
Oui, de frustration, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que t'en as 1000, excuse-moi, t'en as 1000. Et toi, t'imagines, tu roules en Triumph,
t'en veux une,
et tu le mille unième et tu l'as pas.
Alors, Dan,
frustration.
L'Indian, 1000 en Triumph, l'Indian, 120. Parce que c'est les 120 ans de la marque.
Ah, oui, tout à fait.
Voilà. Et donc, ils sortent une ultra haut de gamme au prix de la Goldwyn, 37 000 euros.
Ah bah t'avais raison alors Daniel,
Oui,
tu te bats contre le prix des
mais attends,
exorbitants des custom.
Mais tu sais que nos dossiers, même si on arrive qu'avec un petit torche-cul, on travaille nos dossiers et on a nos sources.
Oui c'est vrai, c'est un peu, ça fait un peu
torche-cul. Oui, et 120 pour le monde.
Oui tout
donc,
à fait.
Pour le monde.
Alors je sais pas pour la France, c'est peut-être écrit, hein, mais
deux.
Il y en a deux pour la France.
Pour la France.
Bon, bah, déjà faudra trouver les acheteurs. Hein.
Oh bah il va y en avoir.
Il y a des chances.
C'est pire.
Bon. Et alors, puisqu'on parle de Triumph, Triumph qui est dans l'innovation, donc dévoile aussi la deuxième phase de son projet pour l'électrification d'une gamme. Alors, pour l'instant, ils sont sur le développement. Donc, ils ont développé un moteur de 10 kg pour 180 chevaux.
Oui, et, alors, et donc, j'ai du mal à y croire.
J'ai vu le moteur. Alors, hein. Alors, moteur 10 kg, mais attention, la batterie, elle fait 120 kg.
Oui.
Ouais, non, mais en plus, la batterie, c'est pas... C'est encore des calculs théoriques.
Tout à fait. Alors, attendons la phase 3 et la
phase
4.
C'est plus en état de proto. C'est quand même, effectivement, la moto, apparemment, elle est bien avancée. Hein. Mais effectivement, ils se vantent d'avoir un moteur électrique de 10 kg. Mais ils ne parlent pas de la batterie.
Voilà. Alors, pour continuer...
Ni du refroidissement du moteur.
Sur une autre marque, la Miche... Jean-Yves et Dan, MV Augusta. Alors, sincèrement, moi, j'en vois jamais sur la route. Bon.
Il y a 4-5 ans, on en voyait quelques-unes. Ouais,
parce que tu vois pas clair.
Si chez un concessionnaire, il y en a une qui traîne depuis un bout de temps.
Voilà. Ah. Donc, MV, alors qui fait des motos quand même, des sportives ici, qui tirent 140 chevaux avec un 800 cm3 3 cylindres et triple échappement. Alors, on parlait tout à l'heure des flûtes de la 750 H2. Effectivement, il faut reconnaître que c'est visuellement, c'est bien fait.
Ouais. Hein. Et c'est fabriqué où?
Alors,
En Inde, chez Badja. Voilà. Eh oui. Bon.
Alors ensuite, deux gros sujets concernant les motos que j'ai annoncées tout à l'heure en début de sujet. La Hayabusa. Donc, je rappelais donc, cette fameuse chronique des 340 km/h qui avait fait grand bruit à l'époque. Et d'ailleurs, Suzuki a changé ses compteurs. Hein, donc, il y a plus. Bon, ce que s'il dit, comme je le disais, ça n'empêche pas François d'avoir poussé la moto dans ses derniers retranchements. Et donc, on voit qu'il y a un abandon par Yamaha, j'en parlerai tout de suite après, des grosses routières. Et là, en l'occurrence, Suzuki va un peu à contre-courant de la tendance, hein, puisque Yamaha aujourd'hui, c'est la présentation de la Tracer que je ferai juste après, est revenu à quelque chose de plus modeste par rapport à sa 1300 FJR. Donc vous découvrez la Hayabusa donc dans sa catégorie Sport GT qui fait revivre le mythe. Autre saga, le Roadster Midsize de chez Ducati, la Monster, 28 ans déjà, et qui après une cure d'amaigrissement de 18 kg, ressort donc un peu en rupture avec le modèle original, haute et fine, et donc qui se rapproche en fait de la Triumph Street Triple et de la KTM 890 Duke. Chez Yamaha, donc j'en parlais à l'instant, l'évolution donc vers un modèle à partir de la MT09 corrigée pour en faire une GT, et donc c'est vraiment la tête d'affiche de la moto de tourisme de GT par Yamaha, donc un roadster caréné transformé en GT, 15 000 traceurs vendus pendant 6 ans, le moteur Crossplane 3, 3 cylindres, suspension semi-active, valise punch, fun, sublimé par le raffinement apporté à sa conduite, tenue de route et confort, 1 700 € de plus par rapport au modèle précédent. Donc voilà. Et pour terminer, la reine des routières, la 1250 RT, et donc page 66, et c'est à ça que je voulais tout à l'heure, je vous en avais fait l'écho, par rapport à la déclaration d'un de ses dirigeants concernant les régulateurs adaptatifs. Hein, donc au niveau de l'évolution, vous avez le niveau 1 qui est le régulateur simple. Vous avez le régulateur adaptatif qui est le niveau 2 et donc qui permet de freiner en plus, je dirais, de la régulation de vitesse, associé donc aussi à l'écartement de voie. Hein, donc ça, on trouve maintenant ça sur les voitures et ça commence ce régulateur adaptatif à être posé sur certaines motos. On en avait parlé le mois dernier. Hein. Et après, bah, ça va être une approche plus système. On va avoir la possibilité donc, de poser, on regarde toujours la route, hein, donc le niveau 3 sur la route. Donc une approche système avec les capteurs embarqués, la connectivité. Et là, on parle du Wi-Fi et de la 5G. Donc là, je parle pour les voitures avant l'autonomie complète, où là, on pourra appeler la voiture, elle viendra vous chercher.
On siffle. Oui. On va siffler.
Et la moto vient. Donc, la moto aussi, et on verra alors, passer des motos toutes seules.
Alors, ah ouais, alors énorme, BMW hein. a déjà fait, il y a 3 ans, la GS1200 autonome.
Ouais, ouais. Hein, donc, sans pilote.
Et voilà, on a envie de se balader. Salut, mec, démerde-toi, moi je vais me balader.
Exactement.
Ah oui, mais attention, tu peux mettre une GoPro sur la moto.
Bon, comme ça, c'est bon.
Tu peux
c'est
bon. De ton fauteuil
c'est bon pour le...
voir la route qui défile.
Les essais.
Alors, et donc, les recherches qui sont entreprises par BMW sur cette GS1200 autonome, c'est justement pour obtenir des données plus précises sur les réactions de la moto sans pilote afin de renforcer la sécurité.
Qu'est-ce qu'on
se fait rien du tout.
Alors, vous retrouverez également une présentation de la Gaulle très rapide. Disons qu'elle a simplement gagné en volume, c'était un des reproches qu'on lui faisait, de volume de bagagerie qu'on lui faisait. La KTM 890 Adventure. Bon, je m'arrête là parce qu'effectivement, on ne va pas passer en vue tous les modèles, mais sachez que chaque mois,
puis de toute façon, c'est dans le mag, hein.
Il y a 15 motos qui sont présentées, donc vous trouverez forcément une à votre mesure dans tous les genres de pratiques de la moto. It's time to wake up.
Wake up!
Et nous, on triche pas, là, hein. C'est pas des bruits de bagnole ou d'autre chose que de la moto, hein.
Ah, mais écoute, ça, c'est
pas comme au cinéma, voilà.
Ça, c'est de la technique son.
Voilà, ça, bah, attention, hein, c'est un pro, hein.
Sélectionné.
Voilà. Allez, Christophe, on continue oui. La rubrique conso motard dans voilà, le mag du mois de mai.
Moto pratique, donc j'ai feuilleté le journal, j'ai pris quelques petits repères. Alors, j'avais parlé le mois dernier des airbags, et donc, justement, là, il y a une enquête qui a été menée, d'un sondage qui a été fait en Espagne, parce qu'en Espagne, il y a une velléité de rendre l'airbag obligatoire.
Ah oui, alors j'ai vu ça, c'est page 14, hein. Voilà. Rendre l'airbag obligatoire.
Voilà, et donc deux tiers des motards espagnols se sont exprimés contre rendre le produit, donc l'airbag obligatoire. 29% sont pour, et donc 5,5% sont sans opinion.
Bon, t'imagines alors, un petit peu, toi, si tu veux faire une petite course de 10 km, faut mettre tes gants, faut mettre tes bottes, parce que maintenant, c'est les bottes, faut mettre ton airbag, il faut mettre. Non, mais attends.
Tout à fait. Alors, je parlais donc le mois dernier des gilets autonomes. Alors, justement, une évolution, et c'est pour montrer un petit peu la tendance, des applications donc, qui sont proposées à la vente, hein, ça coûte 25€ par an, pour rendre les airbags adaptés en mode aventure aux voies rocailleuses chez InEmotion, et en mode piste également, chez InEmotion toujours, et en mode race pour Alpine Star sur les pistes. Parce que bah, les airbags, il faut qu'ils réagissent en fonction de la pratique de la moto que vous avez. Donc si vous faites de la route, de la piste ou du terrain, du off-road, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Donc on développe donc ces applications pour ces gilets autonomes. Et chez Alpine Star, on vous vend donc les deux bonbonnes d'argon facturées 160€ pour regonfler. Eh oui. Pour regonfler.
Non, quand tu penses à une 2 mètres cubes d'argon pour la soudure TIG. C'est trois fois moins.
Voilà. Donc, ça, c'était pour les équipements. Alors, c'est intéressant, justement, en matière d'équipement. J'ai bien aimé l'article sur les livraisons qui prennent du retard pour savoir pourquoi elles ont pris du retard. Parce qu'effectivement, Dafi semble avoir quelques problèmes pour approvisionner, Choé également. Donc, on y apprend que le prix du conteneur est passé de 1 000€ à 7 600€. Que l'Europe n'est pas prioritaire pour des produits qui viennent de Chine, mais que c'est d'abord les États-Unis qui sont livrés. Qu'il y a ce fameux porte-container qui s'est coincé dans le canal de Suez, qui vous a planté pendant 15 jours les containers et donc qui n'a pas permis leur approvisionnement. Et puis du coup, il y a des embouteillages au Havre, à Rotterdam. Enfin bon, tout ça, c'est pour vous expliquer que finalement, il faudra attendre un petit peu pour être livré. Et alors, il ne faut pas parler d'avions, parce que les avions sont cloués au sol. Et puis évidemment, il n'y a pas photo dans le coût de transport entre l'avion et le bateau.
Et si on refabriquait ici, en local, au lieu d'aller fabriquer là-bas à 60 000 km de l'Europe.
Ah, c'est bête,
vous
n'avez pas pensé plutôt.
Bah, non, il n'y a personne qui a pensé à ça. Moi, je réinvente quelque chose.
Président. Mais tu n'es pas un homme politique, tu n'es pas technocrate, toi, Alon. Et tu n'es surtout pas un financier.
Bon, alors, donc, effectivement, vous découvrirez ça, et c'est une tendance aujourd'hui. Alors, on nous rassure, hein, il n'y aura pas d'augmentation de prix, mais quand même, sur les lubrifiants, sur les petits accessoires, sur les clignotants, entre 3 et 8%. Mais ce n'est pas de notre faute. Hein.
Déjà,
c'est...
sur le prix des aciers, sur le prix des matières premières, ça a fait des bons. La tonne de ferraille a augmenté de quasiment 20 à 30%.
Voilà. Alors, dans les autres articles consommotards, j'ai relevé une application, donc Touratech Connect, qui permet à votre smartphone d'afficher 60 réglages de votre moto, en plus de tous ceux qu'il y a déjà. Hein.
Donc,
alors, il vous faudra un petit boîtier que vous brancherez sur la prise diag de votre moto. Bon, voilà, c'est une évolution. Hein, est-ce que c'est de l'innovation? J'apprends
de la connerie.
Que Mitas, spécialiste des pneus agricoles Sauvenne, se lance donc dans la production de pneus sport Bigom, retenu en première montre pour la KTM 1290 Super Adventure. Bon, c'est une information. Pour partir en vacances, le guide Michelin qui ressort après 8 ans d'absence avec 52 balades, donc toutes les thématiques, montagne, littoral, campagne, cours d'eau et frontières. Donc, pas beaucoup d'innovation, mais malgré tout, une mise en page revue. Un partenariat avec Liberty Rider qui vous permet donc de télécharger toutes les traces par QR code via l'appli ou sur leur site. Et donc, la série Tourisme, Tourisme de Motomag qui sort donc ce mois de mai et qui vous donnera donc toutes les pistes de sortie qu'on pourra pratiquer hors confinement.
On espère
qu'on va pouvoir rouler. Et puis, pour terminer, donc, deux sujets. Un sur le courrier des lecteurs concernant la rétrovision. Vous vous souvenez, je vous avais parlé, fut-il ou utile, ces fameux rétro-caméras. Hein, et donc, il y a un lecteur qui dit que, en pratique, motard, effectivement, c'est intéressant toujours de voir si le conducteur de la voiture nous a vu. Et c'est vrai que la rétrovision du rétro extérieur, donc la rétrovision classique, permet quand même d'avoir ce coup d'œil. Quand il a sa caméra à l'extérieur de son véhicule, ma cache, il vous faudra être quand même très, très observateur pour voir si le chauffeur de la voiture vous a vu. Et enfin, dernière chose, quartier libre, donc une rubrique qui a été instaurée depuis le début de l'année. Quartier libre, donc donné au chef des essais à Motomag, Axel, et qui nous explique qu'il vient d'acquérir la Royal Enfield, pas Interceptor, il en a une déjà, mais l'Himalayan 410, et qui explique l'économie, l'écologie et la décroissance, c'est sa pratique de la moto, et il roule avec des motos qui ont 20 ans, 30 ans, qui consomment, c'est un peu mon cas, qui consomment.
Ils n'ont pas de rétrovision, ils n'ont pas de.
Pas de rétrovision, pas de problème d'électronique, elles consomment pas,
c'est bien, ça.
Pas plus que les motos d'aujourd'hui. Oui. Hein, voilà. Ma BMW de 35 ans, elle fait 5,5 litres. Voilà. Bon, oui. Et lui, avec sa MTV à 4,5 litres, 6,50, il est dans les consommations. Donc vous verrez, ce billet, c'était Dan, exactement. Je fais un peu de comment spoiler la présentation que tu feras tout à l'heure, mais sur le prix des motos, c'est exactement le propos d'Axel.
Tu termines avec le casque d'Anne.
Alors, et puis effectivement, alors on va parler tout à l'heure des nids de poules, mais effectivement, j'en parlais pas, mais les nids de poules, c'est des trous, mais oui. Vous avez ce qui sort au-dessus du. Ce qui bosse.
C'est réservé pour Jean-Yves, le casque d'âne, là ?
Non.
Là, je vois la photo dans le Motomag.
Absolument.
Alors là, chapeau. Alors, c'est à Biarritz.
Ne passez pas.
Et c'est juste en face de l'hôtel de la Marine.
Voilà.
On voit, de toute façon, la photo.
Alors.
Et alors là,
pour commencer.
Ça, si tu freines là-dessus,
ouais.
T'es parti.
T'es mort.
Tout de suite.
Vous avez d'abord.
T'es mort.
La plaque d'égout qui est juste. D'abord, la route est en pente, oui. Donc en descente. Voilà. J'ai arrivé sur un carrefour, dans une zone, apparemment c'est une zone de rencontre, parce que vu le marquage au sol, c'est limité à 20 km/h, il semble. Donc il y a une plaque d'égout, vous avez un plateau surélevé pour annoncer le passage piéton, et dans le plateau surélevé, vous avez un tronc d'arbre.
Un demi-tronc d'arbre, on essaie de figurer le truc.
Voilà.
Et juste derrière, il y a quoi ? Un gros carré, il y a de la peinture, qui, à mon avis, est bien glissante.
Ah bah oui, ça c'est évident.
Donc si tu n'as pas fait attention, si tu arrives, s'il pleut un peu, par contre Biarritz, il pleut jamais, ça arrive quand même. Tu arrives là-dessus, si tu freines de l'avant, alors là, mon vieux, je vais te dire un truc, t'es par terre.
Non, mais c'est surtout ce tronc d'arbre, entre guillemets, vous avez bien compris, qui est posé sur un ralentisseur rehausseur, donc déjà.
Ça y est.
On s'est vautré. Bon, on va revenir
appelez les pompiers, la police. Que fait la police?
Allez, musique.
Allez, à vous, musique.
Say what God said, you can do what you want, but good. too light. He said, come over here, step into the light. Feel right. Better tell the second mother this has been done.
Christophe, on se termine le sommaire du Motomag de mois de mai 2021.
Voilà, alors vous avez vu déjà depuis le début de l'année un peu de différence dans l'éditorial, donc la ligne éditoriale plutôt de Motomag, avec une large place donnée au sport moto, qui est toujours plus présent. Hein, donc deux sujets ce mois-ci, le super sport donc, mondial avec la présentation du GMT 94, emblématique team manager Christophe Guyot, qui revient d'ailleurs sur l'histoire un petit peu de ses engagements dans l'endurance.
De l'endurance à la vitesse, alors, le titre.
Le partenariat aussi avec Motomag, la Mutuelle des Motards. Bon, je fais un amalgame, mais c'est la Mutuelle des Motards qui est partenaire donc, avec le team GMT 94 et qui lui a permis donc, à un certain moment de pouvoir passer un cap et d'obtenir des résultats. Donc aujourd'hui, toute l'équipe vous est présentée. Donc c'est une affaire d'hommes, puisqu'on retrouve d'ailleurs une large place qui avait été laissée à des jeunes qui étaient en apprentissage, qui avaient passé des CAP, qui sont arrivés là, premier emploi jeune en 98, qui sont toujours dans l'équipe. Hein, donc vous découvrirez le travail donc, qui a été mené en endurance. Leur engagement, alors évidemment, ils ont eu des résultats, leur engagement donc en vitesse, donc en super sport mondial, et puis avec le projet de passer aussi en mondial superbike, après les brillants résultats qu'ils avaient obtenus en France. Autre sujet, le MotoGP. Alors là, on a des spécialistes avec bon duel, hein, Nico. Bon, je fais une petite blague. Hein, donc, Claude et Jean-Pierre et Nico.
Notre brochette de Bonduel.
Que vous découvrirez donc au mois de mai, comme tous les mois d'ailleurs, pour revenir sur ces débuts fracassants des Français en MotoGP, hein, donc au Qatar et au Portugal. Et donc, vous pouvez évidemment retrouver toute l'actualité par rapport à ces sujets-là dans les pages de Motomag, mais aussi, je le rappelle, sur notre forum Kikinkou. Hein, donc vous allez dans la rubrique Le Bar, qui est accessible à tous, et puis Jean-Pierre Bonduel alias Balou vous fait un rapport mais journalistique exceptionnel, hein, vraiment là c'est du teasing
pour un rapport d'agent spécial.
Ah oui, complètement, hein. Et donc vous retrouverez également chaque MotoGP le débrief, et ça c'est une nouveauté, avec Philippe Guillaume, Pierre Orluc et Thomas Bojard, hein, un ancien motojournal qui aujourd'hui travaille avec Moto Magazine, pour faire un débrief live des MotoGP. Donc une présentation, ils refont le match, un petit peu comme RMC fait le foot. Eh bien, eux s'intéressent au MotoGP. Donc, si vous appréciez le MotoGP, vous vous rendrez donc sur Motomagazine, sur motomag.com, où je l'ai trouvé aussi sur mototribu.com. Alors, je ne sais pas si c'est le même organe, mais enfin, en tout cas, leurs vidéos sont directement accessibles. 52 minutes avec interview, intervention de Thomas et direct live donc avec les intervenants. Donc voilà, et rappelons donc quelque chose qui n'est pas annulé, le Grand Prix de France, le 14, 15 et 16 mai. Alors, pour terminer mon intervention, effectivement, tu montres une photo, Lamiche. J'avais essayé d'avoir Jean-Michel Meunier pour nous parler de Vauxhall, parce que justement, chaque mois, Moto Magazine nous présente une photo, un commentaire, et là, on voit une photo donc, de l'usine Vauxhall, juste avant ou après la vente aux enchères, une usine vide avec des caisses et donc des lots de motos. Et on nous explique donc que les motos ont été vendues par lot et qu'en l'occurrence, les amis de Vauxhall ont réussi de haute lutte à arracher un certain nombre de motos qui ont été remontées. Et donc Jean-Michel fait partie des heureux propriétaires d'une de ces motos, et ce qui permet aujourd'hui de Vauxhall d'encore rouler et vivre. Malgré, bon, ça fait déjà 10 ans la fermeture de l'usine. Donc merci de me le rappeler.
Très bien, Christophe. Ben voilà, donc c'est terminé. Donc c'est dans le mag du mois de mai. Donc et 130 pages.
Numéro 376.
Et le prix, c'est 5 euros. Voilà. 5 boules.
Voilà. Alors bon, est-ce que c'est...
Moi, je suis abonné, je ne sais pas. Je
les librairies sont des commerces essentiels.
Oui. C'est la moitié d'un paquet de cigarettes.
Les maisons de la presse. Et, bon. et ça coûte 30 euros en abonnement appli. Donc c'est moitié prix.
Très bien, merci Christophe.
Oh,
Bon, allez, on enchaîne avec Jean-Yves. Jean-Yves Ballois de la Fédération française des motards en colère.
Oui, bonjour.
Jean-Yves, tu vas nous parler contrôle technique, c'est le sujet qui nous occupe en ce moment.
On va régler le problème pour l'instant, mais c'est à court terme. Donc, le 13 avril, il y a une réunion entre la FFMC, la Fédération française de motocyclisme et le ministère des Transports. Et ils se sont aperçus, ces braves fonctionnaires du ministère des Transports, que la France n'était pas prête à instaurer l'obligation du contrôle technique.
Alors, pas prête, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que ils ont droit de déroger à l'obligation, à la directive européenne, s'ils prouvent qu'effectivement, il y a eu baisse de la sinistralité des motos. Et c'est justement le cas avec tous les radars, les bagnoles radars privées qu'ils ont mis. La courbe de sinistralité continue à baisser. Donc, effectivement, la France a le droit de déroger à cette directive.
Comme la Finlande, les Pays-Bas et l'Irlande.
Exactement. Alors, par contre, ces braves fonctionnaires continuent quand même dire que si on ne peut pas mettre en place le contrôle technique, ils suggèrent l'idée d'un contrôle visuel, payant évidemment, plus bruit et pollution, ce qui n'est pas con parce que finalement les centres auto déjà mesurent la pollution. Le contrôle visuel, en général, les contrôleurs ne sont pas aveugles, donc ils peuvent le faire. Et donc, vous pouvez payer un contrôle.
Et ça fera 60 boules.
Donc, c'est... Donc, jusqu'en 1er janvier 2022, on est tranquille, mais il faut rester vigilant parce que ces connards de fonctionnaires du ministère des Transports pensent déjà... une solution pour nous emmerder.
J'espère que vous avez écouté l'émission du 18, là, la saga du Exactement. Contrôle technique, hein, depuis 2012. Hein. Et puis, il faut rappeler aussi que ce contrôle technique avait été refusé par l'Assemblée nationale et le Sénat en octobre 2012. Hein.
Exactement. Alors, à ce propos-là, rappelons aussi que vous pouvez trouver sur change.org la pétition contre le contrôle technique. Alors, plus il y aura de pétitions, plus il y aura de signataires et plus ça sera fort. Et aussi, un truc qui sera beaucoup plus efficace, parce que l'origine de tout ça, c'est DECRA et consorts qui font du forcing et du lobbying au Parlement européen. Donc, si vous avez une bagnole et que vous devez passer le contrôle technique de votre bagnole, changez de crèmerie, n'allez plus chez DECRA et expliquez à DECRA que...
DECRA voilà,
ça,
voilà.
Je l'avais chanté.
J'ai retrouvé la séquence. Je ne l'ai pas encore... on va la remettre, on va la repasser. Ouais,
on m'a jeté un œil noir.
On était bon, là.
Je chantais, mais bon, c'est
tous
pas
ensemble
grave.
À dire DECRA, pull. Voilà, très bien. Bon. Et c'est curieux parce qu'en Allemagne, les motards n'ont pas manifesté contre ce contrôle technique.
Non. Non, en Suisse non plus.
Mais comment ça se fait?
C'est parce que...
Ils adhèrent au contrôle technique.
Parce qu'ils ont le TUV qui leur donne une latitude de préparation de moto qui est exceptionnelle. Globalement, dans la France.
Tous les roquetteurs que je connais allemands, et j'en connais quand même un paquet, pour passer le TUV, leur contrôle technique, ils remettent leur bécane d'origine. Ils reviennent du contrôle technique et puis ils remettent les modifs.
Voilà. Donc, si on veut modifier sa moto...
Tu mets du velcro.
Alors déjà, tout à l'heure, on en parlait. Si on modifie, on met un échappement amélioré, mais qui ne fait pas trop de bruit, parce qu'on doit respecter les décibels. Voilà. Mais il est plus...
Il est plus aux normes.
Il est plus aux normes de la moto. Donc, il faut conserver son échappement d'origine.
Ouais,
et quand on passera le contrôle technique...
Tout le remonte.
Si jamais on doit passer le contrôle technique, il faut remonter l'échappement d'origine.
Voilà.
Et on m'a dit aussi, les top caisses ou ça, ce ne serait pas accepté non plus, parce que ce n'est pas d'origine dans la moto.
Tout ce qui n'est pas dans la description...
Donc, il faut tout démonter si on met un top caisse.
Dans la réception de ton véhicule. Voilà.
Parce que dans cette fameuse émission, la saga du contrôle technique, on dit que... À partir de tous les 4 ans, un contrôle technique serait obligatoire pour les motos.
Ouais, comme pour les voitures.
Mais on ne sait pas si c'est tous les ans, tous les 2 ans.
Non. En Allemagne, c'est tous les ans.
À partir de... Et ça se pourrait très bien. Et ça, les 4 ans, ça pourrait venir à 3 ans. Même 2 ans, à la limite.
Mais il y y a un interview sur Internet, un interview du PDG de chez Decra, qui insiste que pour le contrôle des bagnoles, soit se fait tous
Les ans. Oui, tous les ans, le contrôle technique,
et
tous les ans.
Et il avance ça dans un but sécuritaire. Il se fout littéralement de la gueule du peuple. Bon, on va pas passer de... Donc, pour l'instant, on est tranquille pour le contrôle technique. Je veux rappeler aussi l'opération Nidpool. Hein, parce que c'est quand même très agréable de pouvoir niquer les pouvoirs publics.
Pas les poules.
Non, pas les poules.
Ça fait peur.
Oui, on a eu peur là.
Qui nous accusent de tous les maux et qui laissent se dégrader complètement les infrastructures routières. Donc, signaler tous les nids de poules sur le site internet du même nom, nidpoules.fr.
Au singulier. Hein.
Au singulier.
Parce que oui, ça peut être piégeant.
Ça peut être piégeant.
Au singulier.
Mais maintenant, donc, je vais passer au gros dossier qu'on va traiter, que Christophe a déjà esquissé le problème, c'est le bruit. Alors, justement, je vais faire un peu de physique parce que, il faut savoir de quoi on parle. Il y a des sons. Il y a des bruits et il y a une nouvelle notion qui est l'émergence. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est.
Aïe, aïe, aïe. Attends, on va aller prendre l'apéro.
On va boire un coup. Hein.
Non, c'est très important. Parce que le son, c'est une vibration sonore de fréquence unique et constante, avec une intensité constante. Le bruit, c'est un mélange de sons. C'est-à-dire que vous prenez un orgue, un instrument de musique, un saxo, n'importe quoi. En fait, ça fait du bruit. Parce que, au point de vue définition de la science, c'est un mélange de plusieurs fréquences qui donne un bruit.
Écoute, je viens d'entendre passer un beau bruit. Oui. Un bon son, je sais plus qu'il faut dire un bon bruit, un bon son.
Le jour où tu vois passer un saxo à ce bruit-là, le mec il se sera bien chargé.
Vu, là.
Je suis perdu. Parce que justement, quand on fait son spectre de fréquences, on s'aperçoit qu'il y a des fréquences de X, Y, enfin bref. C'est un mélange de différents sons. Et l'émergence, alors là, l'émergence, c'est une notion qui a été introduite récemment. En fait, si votre moto fait 80 décibels tout à fait normalement par rapport à sa carte grise, mais qu'elle passe dans un coin, dans un quartier résidentiel où il n'y a pas de tondeuse, où le niveau sonore n'est dû qu'aux petits oiseaux, au vent dans les branches, etc., et donc à un niveau sonore de 45 décibels, vous, avec vos 80, vous foutez le bazar. Et donc, vous êtes insupportable vis-à-vis des habitants de ce résidentiel.
Donc, moralité, il vaut mieux rouler avec des motos qui font beaucoup de bruit. Là, il y a déjà beaucoup de bruit.
Voilà.
Comme ça, on ne les entend pas.
Exactement.
Mais c'est génial. Il faudrait faire des boîtes à bruit dans les villages.
Si tu roules à proximité d'un aéroport, il n'y a pas de problème.
Bah non.
On ne va pas entendre ta moto.
Ah non. Enfin, exactement. Bon, on a l'air con de tourner autour de Roissy.
Par contre, comme disait Christophe tout à l'heure, l'émergence dans la vallée de Chevreuse, à partir du moment où il y a une moto qui passe par seconde dans un quartier résidentiel, c'est insupportable. Bon, alors, je rappelle aussi physiquement la définition du dBA. Alors, 1 dB, c'est 10 fois le log décimal de P sur P0.
Prenez les notes.
Je savais que ça allait être compliqué.
Enfin, s'il faut faire des P,
pour avoir du bruit,
Jean-Yves, il a retourné à ses études.
Ça suffit, hein.
Mais quand on décortique cette formule, on s'aperçoit que une augmentation de 3 dB, ça correspond à un doublement de la puissance sonore. Une augmentation de 10 dB, ça correspond à une puissance multipliée par 10. 20 dB, c'est multiplié par 100. Et 30 dB, c'est multiplié par 1000. Donc, en fait, si votre moto passe de 80 dB à 90 dB, elle fait 10 fois plus de bruit.
Par contre, si elle passe de 80 à 120, alors là, c'est...
80 à 120, c'est 10 000.
Et c'est le fruit des résultats. C'est exactement ce que tu décris. C'est le fruit des résultats qui ont été mesurés donc, par un pot acheté à 30 euros sur un site chinois pour équiper un scooter qui est passé de 85 dB à 91 dB.
Exactement. Donc, alors là, je vais continuer encore un peu sur la théorie parce que qu'est-ce qui se passe dans votre pot d'échappement ?
Bah, je sais pas, j'ai jamais été voir.
Moi non plus.
Justement, c'est tout le problème des pots d'échappement adaptables ou ceux étudiés par le constructeur. C'est que quand votre soupape s'ouvre et que brusquement l'explosion qui a eu lieu dans la chambre passe à l'air libre, elle passe d'une pression de 20-30 kg par centimètre carré à la pression atmosphérique, c'est-à-dire 1 kg par centimètre carré. Et le problème, c'est que c'est une onde sonore qui voyage à la vitesse de... Enfin, ça dépend de la température, de la densité de l'air exactement, qui se déplace à 350 mètres secondes, ou 340, enfin bref. Et donc, cette onde sonore s'évacue en faisant un potin insupportable si vous n'avez pas de chicane, si vous avez simplement un tube de fuite.
C'est rien n'arrête.
Mais le problème, c'est que... Pour ceux qui connaissent un peu la mécanique, c'est que quand l'échappement se produit, il y a aussi l'admission qui s'ouvre. Et donc, si vous n'envoyez pas une onde en réaction à cette onde sonore, vous avez une partie de l'admission qui va directement dans l'échappement. Ce qui est quand même pas bon, ni au point de vue rendement, ni au point de vue bruit, ni au point de vue pollution. Et donc, le système d'échappement est calculé pour présenter une onde de contre-pression au moment où la soupape d'échappement s'ouvre.
Bon. Là, t'as perdu la moitié de l'audition.
D'accord. Bon.
Merci Jean-Yves. Non, tu sais ce qu'on va faire, on va donner ton numéro de téléphone. Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous avez une question encore à poser à Jean-Yves, pas de problème. Si, je vais vous le donner, son numéro de téléphone, juste après le morceau de musique.
Il y a quand même des chiffres à savoir, c'est-à-dire que 85 dB, donc c'est le seuil de risque. Où on commence à avoir des
effets
sur la santé.
Si on synthétise, mais alors en deux mots.
90 dB, c'est le seuil de danger. 120 dB, c'est la douleur.
Très bien. Voilà.
Bon.
Il faut retenir que c'est une histoire de paix.
Voilà, c'est de paix. Voilà. Je suis alors, désolé. Mais c'est pas chiant comme émission. Bah
justement,
mais...
quand je vous parlais de paix sur P0,
oui.
Qu'est-ce que P0?
Ah ben ça, je sais pas parce que j'ai jamais mesuré le P0.
Là, on va t'avoir dans le nez.
Voilà, Jean-Yves.
En fait, c'est alors... basé uniquement sur un panel de cobayes. Et à qui on a fait entendre un son.
C'est des péteurs.
Des rousses péteurs.
Des rousses péteurs.
À qui on a fait entendre un son. Et le seuil de détection minimal qui, de la moyenne de tous ces cobayes, a servi de P0. Voilà. Bon, bah, j'arrête là parce que.
Alors, sur cosinus oméga
autour de cette table.
Ben écoute, c'est très bien. On va mettre ton numéro de téléphone sur notre site. Et cher auditeur, si vous voulez encore avoir un peu plus d'informations, parce qu'il y a encore 4 pages. Hein, mais,
et une boîte de Doliprane avec.
Et on a parlé que du son et du bruit.
Et,
mais on n'a pas parlé de la pollution.
C'est bon.
Nickel version.
Mais par contre, je reviens au motobay, il y a quand même 12 pages sur le bruit.
Avec les résultats des tests. Et des résultats.
Donc, ça peut aider à comprendre ce qu'il dit Jean-Yves.
Oui, c'est important.
Peut-être lire avant Motomag et téléphoner à Jean-Yves après. Voilà très bien. Allez, on passe à un morceau de musique et après, c'est l'info de la custom culture.
Enfin, un peu de bonheur. We'll be right back.
Voilà, on termine cette émission avec Daniel Torel pour l'actu de la custom culture. Daniel.
Oui.
Alors, tout de suite, ras-le-bol des prix indécents. Oh, c'est plus facile à comprendre que ce qu'il nous expliquait Jean-Yves avant
absolument
le morceau de musique.
Absolument pas, c'est simple. Hein, il suffit de se concentrer.
Ras-le-bas des prix indécents des custom.
Bah oui. Et, honnêtement. Tu sais, enfin, on sait tous ici ce que c'est que travailler, d'avoir un salaire à peu près correct pour essayer de vivre. Je rappelle quand même les événements des Gilets jaunes qui demandaient aussi de vivre décemment de leur salaire. Et là, tous les mois, tu vois de sortir une nouvelle moto. On a agrandi les valoches de la Goldwyn, on a mis des systèmes de perles à pimpin dans le BMW, etc., etc. Et ça augmente 1000, 2000, 5000, 10 000 euros. Et voire même plus, c'est surréaliste. Alors, à un moment donné, mon expérience dans une grande société mondiale de grande distribution m'a appris à travailler ce qu'on appelle le PRI, prix de revient industriel. Alors, j'ai repris aussi mes tableurs et compagnie pour construire ma moto.
T'as construit ta moto?
Ouais, de manière virtuelle, bien évidemment.
Ah oui, virtuelle, ah oui.
Il y a quand même.
Non, mais je suis dit, en un mois, il a construit sa moto, mais c'est pas possible.
Non, mais attendez.
Vas-y.
Moi, je fais.
On a tous été épatés, hein, quand t'es arrivé.
Mais je sais que je vous ai pas.
T'as les mains
propres,
c'est pas possible.
Oui, c'est vrai, j'ai regardé tes mains, t'es pas genre un mec construit sa moto.
Non, moi, j'étais chef de projet, etc.
Oui, bah, c'est ce que je disais.
Quand t'es project manager, tu pars d'une feuille blanche et tu mets tous les ingrédients pour construire ton produit, quel qu'il soit. Donc, ce qu'on appelle le PRI, prix de revient industriel. Alors là, j'ai pris des produits donc homologués, distribués donc en Europe, et puis je suis parti du moteur jusque la peinture. J'ai pris, je me suis renseigné avec Painkiller, avec Nicolas Chauvin que tout le monde connaît, qu'on a rencontré dans les salons de Pécancourt, et je suis parti sur un moteur SNS 224 CI, mes ECU, mes échappements super trap, transmission, cadre complet Sensi, des rolling châssis, enfin des amortisseurs Fournales, des bouchons RSD, des selles Sandelman, des guidons top moumoute, enfin bref, j'ai pris le meilleur, enfin ce qui me semble pour moi le meilleur de la customisation, de la fabrication d'un custom très haut de gamme. Je dis bien très haut de gamme. Alors, j'ai tout le détail des prix, je peux vous le remettre. Enfin, je l'ai au propre, bien évidemment. Et je me dis, il y a un problème. Donc, je revois tous mes chiffres. Et j'arrive, à votre avis, à combien pour fabriquer donc un custom de rêve, puisque on a vu la Shiften, la Super Elite à 38 000 boules. À votre avis, on arrive à combien?
Je ne sais pas.
Sachant que j'ai...
Mais tu vas nous le dire.
Sachant que j'ai déjà deux cumuls de marge. Oui. La marge du producteur, la marge du distributeur, et là, la marge du revendeur.
Oui,
d'accord,
mais un truc me chiffonne là-dedans, c'est que quand tu achètes une voiture en pièces détachées...
Elle te coûte beaucoup plus cher.
Oui. Elle te coûte beaucoup plus cher que la voiture finie. Donc,
la différence, c'est que la distribution des pièces automobiles n'est pas libre. Et la grosse différence avec les pièces moto. Donc là, j'arrive à 17 873 euros.
À la louche.
Des prix quand même très très sérieux. Oui. Non. Tout est vérifiable, contrôlable.
C'est pas le site chinois dont je parlais tout à l'heure.
T'as pas le temps de manœuvre.
Attends. Et je me suis renseigné, j'ai demandé à Nico, j'ai dit, Nico, pour construire un custom, je te donne toutes ces pièces, donc je lui ai donné le listing. Il me dit, en gros, j'ai à peu près 50-55 heures d'assemblage. Attends, c'est quand même professionnel. J'ai 50-55 heures de montage. Donc, moi, j'ai rajouté à peu près ce qu'il m'a donné, donc les 3000 euros pour le montage, j'arrive à 20 873 euros pour un truc fait sur mesure avec le top du top en termes de périphérique, en termes d'amortisseur, en termes de moteur et de déco fait par un super bon peintre aéro, quoi. Donc, je me dis, je vois un truc, grande distribution à 38 000 boules. Et là, globalement, là où j'ai pris un cumul de 3 marges, j'arrive à 20 873 euros. Alors, autant des motos d'exception, je suis prêt à mettre 20 000 euros parce que je sais que j'aurai le top dans tous les périphériques, dans le moteur, j'aurai un design sublime, avec des motos qui freinent, avec des amortos, encore une fois, fournailles assez hautes, avec du vrai matos, vraiment de qualité. Alors que, quand on achète une moto stock, on te dit... Bah, les pneus, c'est des pneus en bois, mais pour l'homologation, il faut les changer. Le triangle guidon selle, c'est du bout de bois, il faut changer. Enfin bref, on te dit, il faut changer beaucoup de choses. Alors, moi, je me pose la question, à qui profite le crime et qui, à ce jour, a encore les moyens de mettre 30 ou 40 000 euros pour une moto dans lequel on va te dire, ah mec, tu peux plus aller en Italie, tu peux plus aller en Autriche, tu peux plus aller à Paris, etc., etc., etc.
Et pour faire 1500 bornes par an.
Voilà, c'est ça.
Absolument.
Tu peux faire que le tour des aéroports de Paris.
Voilà.
Voilà, c'est hilarant, alors.
Bah
c'est
oui.
Parce que ça, tu vois, on va pas entendre le bruit, on va pas. Voilà. Ça posera pas de problème.
Non, mais tu vois, au bout du bout, à un moment donné, il y a des gens qui vont manifester tout à l'heure. Et je suis le premier à supporter toute forme de, comment dire, d'entrave à la liberté
d'individu. Oui, parce qu'il faut préciser que cette émission est enregistrée le 24 avril, le samedi 24. Et aujourd'hui, il y a la deuxième manifestation qui est organisée par la FBF, hein, en connivence avec la Fédération française des motards en colère, hein, qui
fait.
Va partir dans une heure. Donc là, il faut qu'on termine de.
Mais t'inquiète pas, j'ai mis mon chrono.
Il faut qu'on se dépêche de terminer l'émission, parce que nous, on va être en retard sinon.
Oui, donc, encore une fois, moi, je suis contre. Je serai le premier à manifester, à me battre sur tout ce qui sera liberticide. Mais à un moment donné, au fond, toutes ces manifestations, ces contrôles, parce qu'on veut nous asséner des frais supplémentaires pour vivre de notre passion. Parce que le bout du bout, c'est ça. Mais, ok. Bien sûr qu'il faut se battre, bien sûr qu'il faut s'élever contre toutes ces conneries, quelles qu'elles soient. Mais à un moment donné, t'as des gens simples, des gens qui vont te dire « Mais monsieur, moi avec ma bagnole, j'ai un contrôle, je peux rien faire. Vous, avec vos engins qui coûtent 30, 40 000, vous allez mégoter pour 60 euros pour votre sécurité. » À un moment donné, il faut avoir du sens.
C'est pas pour la sécurité.
Non, attends, je termine. Donc, il faut donner du sens à ce que l'on fait. Donc, le but, c'est pas dire « C'est bien, c'est mal. » Il faut, dans tous les cas, se battre contre toutes ces lois connes. Ça, c'est évident. C'est évident. Oui, c'est ce que j'ai dit, liberticide. Mais à un moment donné, il faut aussi donner du sens. Et quand je vois, moi, les prix exponentiels des motos par rapport au salaire, par rapport aux revenus des uns et des autres qui pratiquons, ça devient délirant.
Bah, je voudrais dire un truc, je ne parle pas d'argent. Je parle que dès qu'on fait une loi, c'est un peu de liberté qu'on enlève aux gens.
Tout à fait.
Automatiquement. Oui. C'est qu'on oblige. Et si t'es pas d'accord, t'es obligé. Donc c'est un peu de ta liberté qui part.
Absolument. Alors je vais prendre un parallèle à ce que tu dis, parce que c'est très très intéressant. Il y a eu, il y a quelques semaines, les élections dans les PME et TPE. D'accord ? 84% du tissu industriel économique en France. Moins de 5% des gens ont voté, alors que c'est leur gagne-pain au quotidien. Donc, t'as des kékés qui vont les manifester, et le quotidien, ce qui nous fait vivre, ce qui nous nourrit, il n'y a personne qui vote. Attends, il y a un moment donné, il faut aussi mettre en équilibre les valeurs des engagements.
Voilà
bon. Ce que je voulais dire.
On enchaîne peut-être sur...
ce qui te fait plaisir.
Tu m'as mis sur le SAV et prise en garantie de nos motos pour terminer.
Alors voilà.
C'est le parcours du combattant.
Mais oui. Alors, je mets au défi quiconque qui a eu un jour un problème de garantie et devoir se justifier qu'un composant était défectueux pour le faire prendre en garantie. On te met... Mais alors, on te sort tous les arguties possibles, imaginables, pour dire « Ah oui, mais est-ce que ça n'a pas été bien ou mal utilisé ? Faut que je demande à mon inspecteur des ventes, faut que j'appelle le distributeur, etc. etc. »
Ben, ça a été, moi.
Ben non, mais...
Moi, mon joint à 140 bornes, mon joint SPI, qui fuit beaucoup, mais qui fuit beaucoup, hein. Attention, beaucoup d'huile. Hein,
mais,
ouais.
Non, mais l'avantage, c'est que tu achètes déjà au départ...
Ils n'ont rien dit.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais au départ, tu achètes une moto qui fuit. Donc, on sait que c'est pas un problème. Mais quand on achète du premium, quel qu'il soit, tu t'attends, quand il y a un véritable problème de garantie, que la garantie, monsieur, excusez-nous, on te déroule le tapis rouge en disant, mais écoutez, on n'a pas été bon, on fait tout ce qu'il faut pour que vous soyez content. Eh bien non, là, tu dois justifier pourquoi ça merde. Donc, et je peux t'assurer, et tu le vois dans le courrier des lecteurs, c'est exponentiel, cette prise de garantie qui devient de plus en plus bizarroïde.
Très bien, on termine avec les news de la custom culture.
Oui, alors, le custom village, dans tout ça, c'est quoi ? Eh bien, on est en plein travaux, parce que notre scène, on l'a grandie, parce que l'accueil, on développe, on est en train de refaire toute la déco, parce qu'on attend avec impatience le moment où on va pouvoir... se revoir tous, passer des bonnes soirées, et que c'est effectivement ce temps nous permet de travailler sereinement et de nous occuper à améliorer les conditions.
Chez vous, hein, il vous reste que 15 jours. Hein.
Ah c'est quasiment c'est quasiment terminé là.
Bah, normalement, hein.
15 jours.
Bah, non, c'est pas vrai.
je croise les doigts. Alors, dernière information, donc on a prévu une grosse balade en Irlande.
Oui.
Tout est annulé.
Ah oui, bah ça.
Donc, on mettra ça en 2022, mais je sais pas si on pourra aller en moto. Peut-être qu'on.
Non, en 2022, on n'est pas sûr non plus. Hein.
Bah non. C'est... Bah non. Ouais.
Alors, et puis, il y aura une quatrième vague. Hein.
Donc voilà. Voilà. Oui, une cinquième, puis une.
Voilà.
Puis
donc, voilà. Bon. 9 minutes 37.
Genre. Voilà, exactement. Non, 10 minutes 14, c'était très bien. Daniel, eh ben, écoute, c'est impeccable. On a retenu un peu tout ce que tu nous as dit. Et puis, on va se retrouver, nous, dimanche dans un mois. Mais on passe un morceau de musique pour se dire au revoir. Voilà, l'émission se termine. Merci Christophe pour le sommaire. On se retrouve le mois prochain, le 6 exactement, dimanche 6 juin.
6 juin.
Juin, oui.
On va débarquer tous ici.
Oui, bien sûr.
Ça se fume, 6 juin.
C'est un comment ? Non, pas juin, j'ai dit. Juin, j'ai dit.
Ah bon, j'avais mal entendu, c'est le cas.
Merci Jean-Yves aussi pour la fédé. Alors, on espère que ça va s'arranger, cette histoire de contrôle technique.
De toute façon.
Parce que moi, j'y crois pas. me dire OK pour 2022, mais non, 2023, on y a bon. Hein, non, si on dit annulation pure et simple du projet.
La malveillance des employés des ministères de transport et de sécurité.
Et Daniel, on verra si les prix des customs vont baisser suite à ton.
Tu veux que je te dise
à ton allocution là. Hein, ça va être baissé de 5%.
Oh, 30%, ce serait bien.
Écoute, tu mets sur un site internet toute ton étude, histoire de faire des émulations.
Mais je vais le faire, bien sûr.
Les gens construiront leur bécane.
Bien sûr. Dans ton prix, t'as intégré cadre, moteur et tout est pointé.
Ouais, les salles, les routes, etc.
Voilà. Très bien. Et voilà, mission se termine. On remercie Laurent, notre technicien émérite.
Merci Laurent.
On se retrouve.
Ça, c'est un technicien qui a du son.
Bon, voilà, merci Laurent, la pêche. Hein. Et nous, on se retrouve dimanche prochain à la même heure, 11h, sur les ondes de Radio Campus Lille, 106,6 ou www.campuslille.com. Passez un bon dimanche et rendez-vous dimanche prochain sur le 106,6.